Bonjour à tous. Bonjour Rachel, que Dieu te bénisse. Bonjour aux sœurs qui sont avec toi. Mona, Chantal, Ocilia, soyez bénis. Bonjour à Jude, à Caridad.
Bonjour à tous.
On va baisser ça. Voilà. Il y a deux autres personnes, plus que même que deux personnes, mais je ne vois pas tous les noms. Donc, si vous écrivez un petit mot, à ce moment-là, je pourrais vous saluer adéquatement. Bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Soyez bénis. Bonjour à mon père et à ma mère. Bonjour à la belle-mère. Alors, je ne sais pas si la belle-sœur est déjà réveillée ce matin. Si elle est avec vous, on la salue. Bonjour à Jean-Gilbert et à Ozani. Bonjour à Denise et à Gérard. Bonjour Thérèse, bonne année à toi aussi, effectivement. On ne t'a pas vu hier, on redémarrait hier. Bonjour Yolaine. Alors, journée bien, bien froide aujourd'hui. Ce matin, en me levant, il faisait moins 25. À 5 heures du matin aujourd'hui. Il faisait moins 25 et on ressentait moins 35. Ça se réchauffe un peu aujourd'hui, mais guère. Je pense que le plus chaud qu'il va faire, c'est moins 19. Donc, on doit y être pratiquement. Content de savoir, Thérèse, que tu vas un peu mieux aujourd'hui. Sois bénie. Vous avez encore un bon 5 minutes pour aller vous chercher un café, comme moi j'ai fait. Et puis, aussi un thé, un verre de lait, ce qui vous plaira ce matin. Chose certaine, si vous n'avez pas à sortir, restez vraiment à la maison. Et si vous sortez, couvrez-vous bien. Alors, certains diront que je dois être content. Le froid ne me dérange pas tant que ça, ne me réjouit pas nécessairement non plus. C'est la neige qui me réjouit. Et la neige, cette année, je n'en ai pas autant que je veux. Vous remarquez qu'on est rendu le 11 janvier et qu'il n'est jamais tombé plus de 10 cm à la fois cette année. Donc, on est en retard sur les chutes de neige quant à moi. J'attends toujours ma première vraie et véritable tempête 25 cm d'un coup là. C'est pas arrivé sur Montréal pour l'instant et vous m'en voyez bien navré. Salut Daniel, que Dieu te bénisse, content que tu sois là ce matin. Hermana Susana, que Dios la bendiga. Bonjour Charlotte, soyez bénie. Bonjour Manon, bonjour au pasteur André. Merci Daniel. Donc on continue ce matin l'enseignement ou notre poursuite de l'enseignement du pasteur André de dimanche dernier qui s'intitulait « Dieu a-t-il toute mon attention ?» Pour ceux qui veulent déjà ouvrir vos Bibles, c'est dans Luc au chapitre 10. Bonjour Myriam, bonjour à Donald aussi, bonjour Louise, bonjour Michel. Si Jacques est avec vous, on le salue. Bonjour Julie, que Dieu vous bénisse. Bonjour à votre époux aussi. Rebonjour la belle-mère. J'essayais de me taire pour ne pas couvrir le son de la nénette qui boit, parce que je sais que ce son embête la belle-mère, donc ça me faisait plaisir de lui faire entendre Néma qui buvait goulûment. Et là, ça devient un peu long. Bonjour Bernadette. Encore une petite minute et on va commencer. On vous rappelle que hier soir, le cours sur l'Épître aux Éphésiens a eu lieu avec le pasteur André. Si vous n'avez pas pu assister, vous pouvez toujours visionner l'enseignement sur la page web de l'Église ou sur la page Facebook de l'Église. C'est bien sûr disponible. Bonjour Ninji, que Dieu te bénisse, content de te voir. Bonjour à mon ami Jacques et à la petite famille. Alors prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ce moment de partage, d'exhortation, ce moment de méditation dans ta parole. On te demande Seigneur de bien vouloir nous accorder ta grâce, compréhension pour tes saintes écritures. Et aussi Seigneur, nous prions que celle-ci trouve une terre qui a été dûment préparée, dûment travaillée pour la recevoir, afin que cette semence qui vient de toute éternité de toi puisse non seulement s'implanter en nous, s'enraciner, mais croître et porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, et que ta présence, Seigneur, se manifeste parmi nous. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors on ouvre dans Luc au chapitre 10. Et je vais lire pour vous les versets 38 à 42. On étudie, bien entendu, cette semaine les versets 41 et 42. Et on poursuit donc l'enseignement, comme on le disait tout à l'heure, l'enseignement que le pasteur André a prodigué cette semaine, dimanche dernier, qui s'intitulait « Dieu a-t-il toute mon attention ?» Alors, c'est la visite de Jésus à Béthanie, dans la ville où Lazare habite, avec ses sœurs Marthe et Marie, et quand il s'arrête dans la maison de ses frères et sœurs, voici ce qui se passe. Donc au verset 38 dans Luc au chapitre 10. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et je répète donc les deux versets, 41 et 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors hier, on a débuter donc nos enseignements avec cette première parole que Jésus va prononcer à l'égard de Marthe, en lui disant « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. » Et aujourd'hui, on prend cette deuxième parole, « Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Alors hier, le terme qui était important, c'est le terme « s'inquiéter » qui était « merimnao »,« merimnao » en grec, qui apparaissait 19 fois dans le Nouveau Testament. Et on a parlé de s'inquiéter dans le sens de se tracasser, donc voir notre quiétude et notre paix être bousillées. On parlait de merimnao, s'inquiéter dans le sens de veiller sur quelque chose, donc prendre toute notre attention ou prendre tout notre temps. Et enfin, le terme merimnao va aussi parler de veiller, de chercher ou de promouvoir à son propre intérêt. Alors notre intérêt qui devient pour nous la quête primordiale de notre vie, qui nous vole de notre paix et de notre quiétude, notre intérêt, notre devenir qui occupe toute notre attention au lieu que celle-ci soit portée sur Christ, et enfin notre intérêt et notre devenir qui prend tout notre temps. Alors au lieu de veiller à la poursuite du royaume de Dieu, au lieu de veiller à faire avancer le royaume de Dieu, très régulièrement, on tombe dans un égocentrisme, un espèce d'égoïsme où la chose qui importe, c'est que m'adviendra-t-il ou qu'adviendra-t-il de ma personne aujourd'hui, demain ou plus tard. Et tous nos efforts, toute notre concentration, toute notre attention est donc vouée sur nous. Et assurément, lorsque on voue une attention particulière à notre propre personne, bien entendu, celui qui en pâtit, c'est donc Dieu. Au lieu d'avoir cette relation où il est priorité dans notre vie, il devient secondaire, puisque la priorité est consacrée à notre propre individu, à notre propre existence. Et aujourd'hui, Jésus va un peu plus loin. Il va donc dire à Marthe, après lui avoir dit « tu t'inquiètes pour beaucoup de choses », il va lui dire « tu t'agites pour beaucoup de choses ». Le terme « s'agiter » ne revient qu'une seule fois dans le Nouveau Testament. Et bien sûr, vous aurez compris, c'est dans ce passage de Luc 10. Le terme qui est utilisé pour « agiter », c'est le terme « toribazo »,« toribazo », donc « t-h-o-r-y-b-a-z-o », je répète, « toribazo », pour « s'agiter ». T-H-O-R-Y-B-A-Z-O. T-H-O-Y. Je répète, là, je suis en train de dire des bêtises. Donc, toribazo, T-H-O-R-Y-B-A-Z-O. Pour m'assurer que tous ceux qui prennent des notes l'ont adéquatement, T-H-O-R-Y-B-A-Z-O. Et on va voir quelques déclinaisons ce matin. En fait, on va voir 6 déclinaisons de ce terme-là, qui vont nous permettre de voir la spirale dans laquelle le diable veut nous engouffrer lorsque l'attention n'est plus portée sur notre Seigneur, mais portée sur nous-mêmes, ou portée sur autre chose ou autre personne que sur Jésus. Il y a bien des choses qui peuvent nous conduire à cela. Et c'est pour ça qu'hier, on a vu que le terme, beaucoup de choses, c'est le terme police. Ça ne limite pas à un contexte, ça ne limite pas à un élément en particulier. Mais Jésus est en train de dire à Marthe, il y a bien des sujets qui te tracassent. Il y a bien des sujets qui occupent ton attention. C'est comme si, au lieu de se concentrer sur Dieu, je vais prendre une gorgée. Le pasteur André et le pasteur Sergio sont plus doués que moi pour s'arrêter et boire de l'eau. Moi, je ne sais jamais quand je dois le faire. Puis à chaque fois, je sens le besoin de m'excuser, de m'interrompre pour boire. Il faut que j'apprenne d'eux. Donc, je parlais, le terme « police » pour beaucoup de choses va davantage que sur un sujet, sur un domaine. Il est en train de dire à Marthe qu'il y a tout un tas de choses qui se bousculent en elle, qui se bousculent dans ses pensées, qui se bousculent dans sa vie et qui l'empêchent de bien se concentrer sur Dieu. Et assurément, Le diable sait que ça peut nous arriver à nous tous. Le diable sait qu'on est fait comme Marthe. On n'est pas différent d'elle. Et assurément, il peut susciter un tas de choses dans notre vie pour venir chercher notre attention. Regardez simplement la première tentation qu'il va faire à l'égard de Jésus. Jésus a passé 40 jours dans le jeûne et dans la prière, dans le désert. Et la Bible nous dit qu'après 40 jours, il eut faim. Et le diable va venir et il dit, bon, puisque tu serais le Fils de Dieu, ben à ce moment-là, dis à ces pierres de se transformer en pain et tu auras de la nourriture. Et Jésus va lui répondre, la parole où il est écrit, la parole nous dit, tu ne mangeras pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Jésus est en train de ramener sur le fait que il y a bien des choses qui peuvent nous inquiéter. Notre nourriture peut nous inquiéter. Mais ce qui est important, ce sur quoi nous sommes fondés, reste la parole de Dieu. Et c'était l'essence même de l'enseignement du pasteur André ce dimanche. Quelle est l'attention que je porte à mon Seigneur? Quelle est l'attention que je porte à la parole de Dieu? Alors qu'on est en train de débuter cette année, quelle va être mon attitude par rapport à la parole de Dieu? Aura-t-elle une place de prédominance dans ma vie ou sera-t-elle secondaire? Et assurément, le diable va te faire un tas de suggestions pour te permettre de mettre un peu au rencard la parole de Dieu. Il va mettre des besoins familiers. Il va mettre des besoins physiques, il va mettre des besoins professionnels, il va mettre des besoins de santé, il va mettre des besoins de loisirs ou autres. Il va susciter tout un tas de domaines, de choses, tout un tas d'événements qui pourraient venir prendre place ou venir prendre la place de celle qui devrait être révolue au Seigneur. Alors, bien des choses peuvent me conduire à, premièrement, être agité. Jésus va dire à Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Agité veut dire être sorti de son calme naturel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez voir une spirale ou une augmentation, une croissance dans les choses que le diable fait pour nous priver ou priver Dieu de notre attention. Alors, premièrement, être agité, on nous sort de notre calme naturel. C'est ce que j'appellerais la gestion du stress. Il va susciter des circonstances dans notre vie pour que nous devenions stressés et au lieu de garder notre attention sur le Seigneur, il va faire en sorte que l'inquiétude vienne à nous gagner. Vous savez, lorsque vous êtes inquiet par rapport à une chose, vous êtes en train de conduire, mais vous ne pensez plus à la route, vous pensez à la problématique que vous devez résoudre. Vous avez une situation de santé, une situation professionnelle, une situation familiale qui vous inquiète. Vous êtes en train de faire une activité, mais vous vous rendez compte à un moment donné que cette activité est machinale et tout simplement faite par habitude, mais que votre attention n'est pas là. Vous êtes en train de coudre, de tricoter pour les dames qui serait peut-être dans ce genre d'activité-là. Vous êtes en train de tricoter et au lieu de penser à la prochaine maille que vous devez faire, de penser à comment vous devez placer vos aiguilles, vous êtes en train de tout simplement faire la chose de façon mécanique, par habitude, mais vous êtes focusé, vous êtes préoccupé dans vos pensées par rapport à la problématique en soi. Lorsque mes pensées sont occupées assurément par une problématique, ben Dieu n'est pas le centre de mon attention. Alors, le premier point que le diable va essayer de faire, c'est de susciter des choses dans votre vie qui vous permettent de sortir de votre calme naturel. De façon un peu similaire, de façon très proche, je dirais en même temps, lorsque nous sommes agités, un autre synonyme serait être troublé. Donc, tout à l'heure, c'était être sorti de son calme naturel, être sorti de sa capacité à gérer le stress, et on s'entend qu'il y en a qui sont plus doués que d'autres dans ce domaine, mais foncièrement, on a tous une façon de gérer notre stress, et on a tous une façon de fonctionner. Quand je suis agité, ça veut dire que je sors de cette capacité que j'ai habituellement à gérer mon stress. Après avoir été agité, je peux être troublé. Là, à ce moment-là, ce n'est plus je sors de mon calme ou je sors de ma gestion du stress, je sors même de ma paix naturelle. Si j'étais jusqu'à présent calme, reposé dans la quiétude parce que je profitais de la paix que Dieu me donne, lorsque je laisse les choses venir prendre prédominance dans mon attention, lorsque Dieu n'est plus le centre de mes pensées, bien à ce moment-là, je peux être troublé. Et à ce moment-là, effectivement, ma paix naturelle, ma paix intérieure peut sombrer. Alors tout à l'heure, c'était la gestion du stress, comment je fais fonctionner la mécanique pour rester calme. Et là, on parle vraiment de la sensation à l'intérieur. C'est plus une question que je suis capable de donner l'apparence du calme. C'est plus une question que je suis capable de faire face à la situation et de respirer par le nez et de calmer les battements de mon cœur. Là, c'est vraiment une sensation ferme à l'intérieur de moi qui est agitée, qui est troublée, qui est inquiète. La paix qui devrait habiter en moi vient à se dissoudre, voire à disparaître. Alors, le diable va t'agiter. Après t'avoir agité, il va tenter de te troubler, de te sortir de ta paix naturelle. Hier, je l'expliquais. La Bible nous dit, voici, je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne, je vous la donne en abondance, et je vous donne une paix qui dépasse l'entendement. Alors, si la paix dépasse l'entendement, si la paix que Dieu me donne fait en sorte que je suis capable de rester calme, même dans une situation difficile, si je perds cette paix, c'est donc que quelque chose est venu prendre sa place. C'est donc que quelque chose a tassé la paix sur le côté et est devenu le sujet important, le sujet premier dans mes pensées. Ça veut donc dire qu'au lieu de la paix, qui était la grâce, qui était ce cadeau que Dieu me faisait, je décide de relayer cette paix à un rôle secondaire et de mettre l'emphase sur le sujet problématique, sur la situation complexe que je peux rencontrer. Alors, je décide que dans ma balance, au lieu de me focusser sur la paix de Jésus, au lieu de garder mes yeux sur cette paix qu'il me donne, je décide que mes regards seront portés tout d'abord sur le sujet d'inquiétude ou sur le sujet difficile de mon existence. Ça veut dire que je troque un cadeau que Dieu me donne, qui est cette paix qui dépasse l'entendement, je la troque pour une inquiétude, pour garder une emphase sur la problématique. Alors, agité, troublé, distrait. Dieu a-t-il toute mon attention? Pour qu'il ait mon attention, il faut que je sois focusé. Il faut que je sois bien réglé avec le sujet ou avec le Seigneur. Il faut qu'il soit dans ma pensée. S'il n'a pas toute mon attention, à ce moment-là, effectivement, je peux être distrait. Le pasteur André nous illustrait la chose, notamment lorsque, à un moment donné, il prie pour un frère dans son temps de prière personnelle, et puis en plein milieu de la prière, il s'en va, son esprit commence à divaguer, à vagabonder, il pense à telle situation, à tel sujet, au poulet qu'il faut mettre au four, au lait qu'il faut acheter, aux enfants qu'il faut aller chercher à la garderie à telle heure, et au lieu de se concentrer sur le temps de prière qu'il avait avec son Seigneur. Donc, la distraction va être une sortie de mon focus habituel, une perte de mon attention, une perte de ma réflexion. Lorsque je suis distrait, ça veut dire que mon esprit divague, va se promener à droite et à gauche, au lieu de se concentrer sur Jésus, au lieu de se concentrer sur ce que Jésus pourrait vouloir nous dire, sur ce que Jésus pourrait vouloir demander de nous. On se met à développer un tas de scénarios, on se met à développer un tas d'hypothèses plus farfelues les unes que les autres, et assurément, aucunement fondée, au lieu de chercher réponse, au lieu de chercher direction auprès du Seigneur. Alors on est agité, on perd notre calme, on est troublé, on perd notre paix intérieure. De surcroît à cela, je suis distrait. Donc je ne vois plus les choses qui se passent, je ne vois plus ce qui est important, je ne vois plus ou je ne suis plus concentré sur le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible va nous dire de prier sans cesse. Pourquoi prier sans cesse? Pour que constamment nos prières retournent et nos pensées retournent vers le Seigneur. Assurément, on ne peut pas passer 24 heures sur 24 à genoux au pied de notre chaise et commencer à prier, mais à avoir cette attitude d'intercession constante en nous. Avoir cette attitude comme deuxième nature, ou même plutôt comme première nature, d'être en train de discuter avec Dieu, de pouvoir lui parler librement et recevoir de lui aussi. Pas simplement faire un monologue, mais aussi avoir cette attention où on dit « Seigneur, si tu veux me parler, je suis disposé et disponible à recevoir de toi. » Donc, ne pas oublier que le diable va essayer de nous distraire. Il va amener un tas de choses, un tas de situations, un tas de circonstances, un tas d'événements autour de nous qui vont nous faire dévier de notre attention qui devait être mise sur lui. On se rappelle, Marthe, elle va être préoccupée avec comment la maison est préparée, comment la nourriture est faite, comment les chambres sont rangées, comment la poussière a été enlevée, combien l'eau on est allé la puiser pour qu'il y en ait suffisamment pour toutes les convives, combien on doit rajouter de farine pour le pain parce qu'on est X nombre de personnes plus nombreuses que celles qu'on était prévues. Donc toutes ces choses-là viennent faire en sorte que Marthe, au contraire de Marie, va s'agiter, va être distraite au lieu de se concentrer, comme Marie, sur les enseignements de Jésus. Agité, troublé, distrait. Après avoir été distrait, ben on peut être dérouté, donc dévié de notre route. C'est aussi un des synonymes ou une des traductions qu'on pourrait avoir pour toribazo, s'agiter, donc dérouté, dévié de notre route. Dévié de notre route, ça veut dire que j'avais un objectif et je fixais cet objectif. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de regarder cet objectif et je suis parti à droite ou à gauche. Quand vous conduisez, les instructeurs de conduite, je me rappelle à l'époque où je prenais les cours, l'instructeur me disait « Florent, là où vont tes yeux, va aller ton volant. Si tu regardes à gauche, le volant va partir à gauche. Si tu regardes à droite, le volant va partir à droite. » Alors il me disait, regarde toujours le plus loin que tu peux à l'avant et droit devant toi. Il dit, ta vue périphérique va voir à peu près tout ce qui se passe et ton volant va rester droit. Où as-tu ton regard? Si ton regard est vers Jésus, tu vas aller vers Jésus. Mais si ton regard est placé sur une problématique qui est à droite, alors tu vas aller à droite. L'important est de savoir que le diable veut nous faire dévier de route. Juste dans la définition du terme péché. Le terme péché, c'est le terme amartia. Le terme amartia veut dire rater la cible, dévier de sa route. Quand je rate la cible, ça veut dire que je ne vais pas là où je devais aller. Le péché, c'est ce qu'il fait. Mais ce n'est pas simplement le péché qui nous fait rater la cible. Ce n'est pas simplement le péché qui nous dévie de la route. La tentation, les préoccupations de cette terre, les choses qui viennent prendre la place qui devrait être restreinte à Dieu et qui viennent le voler de notre attention. Donc dans ma vie, c'est qu'effectivement, j'ai les yeux fixés sur Jésus. Si je n'ai pas les yeux fixés sur Jésus, si je suis distrait, à un moment donné, je risque d'être dérouté ou dévié de ma route. Idem qu'avec le péché. Je pourrais être dévié à droite et rater la cible, rater l'objectif. Deux autres termes encore ce matin. Agité. Et je fais exprès de répéter pour que ça rentre vraiment dans nos pensées. Agité, je sors de mon calme naturel. Troublé, je perds ma paix naturelle. Distrait, je perds mon focus, je perds mon attention. Dérouté, je sors de ma route, je rate la cible, je rate l'objectif. Et lorsque je suis dérouté, je suis aussi égaré. Être égaré. Vous allez voir que égaré et perdu, c'est deux choses différentes. Là, on est juste rendu au terme égaré pour l'instant. Toribazo va donc vouloir aussi dire égaré. Qu'est-ce que veut dire être égaré? Ça veut dire être sorti de mes repères. Être sorti des choses que j'arrive à identifier. Être sorti des choses qui me permettent d'avoir des balises sur ma route. Vous savez, sur la route, on a ce qu'on appelle des garde-fous. Lorsque je m'égare, je pars donc à l'extérieur de cette route, et à l'extérieur de la route, il n'y a plus de garde-fous. Les garde-fous sont sur la route. Les garde-fous me permettent de garder ou de maintenir la voiture dans la bonne direction. Me rappelle que si je vais un peu trop à droite, voici, je commence à entendre des bruits bizarres, ou voici, il y a une petite barrière qui me ramène vers le centre de la route. Mais lorsque j'ai perdu le sens des repères, lorsque je ne vois plus les garde-fous, parce que je suis sorti de la route à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qui peut me servir de repère pour me dire, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en train d'arriver là où je dois me rendre? Nous sommes alors égarés, sortis de nos repères. Et le diable régulièrement veut nous sortir de nos repères, veut nous sortir de ces endroits où nous avions cultivé jusqu'à présent cette capacité à entendre la voix de Dieu, cette capacité à ressentir la présence de Dieu, cette capacité à identifier ce qui est bien de ce qui est mauvais. Les repères dans notre vie sont très souvent une question de « est-ce que je peux identifier les pièges que l'ennemi me tend? Est-ce que je suis capable d'identifier ce qui est bon de ce qui est mauvais ?» Très souvent, lorsqu'on parle avec quelqu'un qui a connu les voies de Dieu et qui s'en éloigne, et la plupart du temps, c'est lorsqu'il en revient, il va nous dire à un moment donné, j'ai juste perdu cette notion de ce qui était bien, de ce qui était mauvais. Ce qui était mauvais est devenu juste naturel parce que tout le monde le faisait, parce que tout le monde l'approuvait, parce que tout le monde était d'accord. Alors, je me suis mis moi aussi à approuver cette chose-là, alors que si j'étais resté focus, si j'étais resté attaché à la parole de Dieu, ces choses-là n'auraient pas été autorisées dans ma vie. Lorsque Dieu perd notre attention, lorsque la parole de Dieu perd notre attention, nous perdons aussi des repères dans notre existence. La connaissance du bien et du mal, la connaissance de ce que Dieu approuve, de ce que Dieu désapprouve, c'est pas dans le journal de Montréal qu'on va l'apprendre. Ce n'est pas en écoutant les réseaux de télévision qu'on va l'apprendre. Connaître ce que Dieu aime de ce que Dieu déteste, c'est assurément pas dans un film d'Hollywood qu'on va l'apprendre. C'est à travers la méditation, la lecture et la réflexion sur la parole de Dieu. Alors quand cette parole n'a plus mon attention, quand Dieu n'a plus mon attention, alors à ce moment-là, il est tout à fait logique et tout à fait conséquent que nous perdions aussi nos repères et que nous en venions à être égarés. Sortie de route, c'est que je vois encore la route, mais je suis juste en train de dévier. Lorsque je suis égaré, c'est que je me suis rendu dans un endroit où il n'y a plus de marque qui me dit où je dois aller, comment je dois y aller. Mais il y a pire encore. Après être égaré, donc ne plus avoir de repères, et on va terminer là-dessus aujourd'hui, c'est être perdu, agité, troublé, distrait, dévié de notre route, égaré, perdu. La différence entre perdu et égaré, c'est qu'égaré, c'est avoir, être sorti de mes repères. Être perdu, c'est être incapable de retrouver son chemin. Être incapable de retrouver son chemin. Voici la conséquence ultime du fait que Dieu perde notre attention. La conséquence ultime du fait que nous nous éloignons de la parole de Dieu fait en sorte que nous ne trouvions plus notre chemin. Et c'est tout à fait logique. La Bible nous en parle tant dans l'Ancien que dans, le Nouveau Testament. David va dire dans le psaume 119 que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds, une lumière sur son sentier. Donc une lampe qui éclaire ses pieds, une lumière qui éclaire le sentier dans lequel il doit cheminer. Si je n'ai plus de lumière qui éclaire mes pieds, si je n'ai plus de lumière qui éclaire mon sentier, je ne sais plus où je vais et je ne peux donc plus trouver mon chemin. Il est grave et périlleux pour un enfant de Dieu de ne plus donner à la parole et à Dieu toute notre attention. Parce que ce faisant, oui, on en vient à être agité. Oui, on en vient à être troublé. Oui, on en vient à être distrait. Oui, on peut en dévier de notre route. Oui, on peut en être égaré. Mais dans le pire des cas, on peut être perdu et ne plus avoir cette capacité à retrouver son chemin. Voilà pourquoi David va dire aussi, « Seigneur, si je me suis éloigné, ramène-moi dans les sentiers de la justice. » Si je me suis éloigné de toi, ramène-moi dans les voies du salut. C'est important qu'aujourd'hui tu puisses faire le bilan d'où tu en es. Est-ce que tu sais où tu en es avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu sais où tu en es aujourd'hui dans ton chemin avec le Seigneur? Si tu es rendu dans cet endroit où tu n'as même plus capacité de trouver le chemin, Jésus est encore la lumière, le chemin et la vie. Il est encore aujourd'hui la seule source de lumière. Il est encore aujourd'hui le seul chemin qui mène au Père. Il est encore aujourd'hui la vie et la vie en abondance. Alors mon ami, peu importe où tu es, peu importe à quel stade tu pourrais te trouver, peut-être qu'assurément, tu es dans cette voie où tu es focusé sur Jésus, ton attention lui est donnée et tu es sur le bon chemin. Si c'est le cas, gloire à Dieu, continue. Mais fais attention. Fais attention parce que on peut tous bifurquer de voie. Fais attention parce que tu n'es pas à l'abri de t'égarer non plus. Alors, tes bonnes habitudes, alors ton temps de dévotion avec Dieu, alors l'attention que tu lui consacres ne diminue pas là-dedans. Je te conseillerais même d'accentuer ton attention, d'accentuer ton travail de concentration sur Dieu. Mais peut-être que ce matin, tu es agité. Tu as perdu ton calme naturel. Ta gestion du stress est mise à mal. Peut-être que ce matin, tu es pire encore. Tu es troublé. Alors, ton sentiment à l'intérieur de toi, lorsque tu analyses ce que tu vis à l'intérieur, tu te rends compte que tu es troublé à l'intérieur. Ta paix, la paix de Dieu, a disparu. Peut-être que tu es distrait. Au lieu de te concentrer sur le Seigneur, tu es en train de te concentrer sur un tas de choses. Peut-être que tu es sorti de la route. Tu t'es mis à dévier. Peut-être que tu es en train de rater la cible. Et tu te dis, mais c'est juste un millimètre. Mais un millimètre lorsque tu suis cette direction, après des années et des années, tu peux être à des kilomètres et des kilomètres dévié de la voie que Dieu avait pour toi. Peut-être que tu es au point de l'égarement, où tu perds les repères, où les choses qui devraient être des signaux du danger, tu ne les vois plus, tu ne les comprends plus. Tu y as fermé les yeux. Peut-être que tu es dans l'état très dangereux d'être perdu et d'être incapable de retrouver ton chemin. Je te le rappelle, Jésus est la lumière. Il veut éclairer ton chemin et te ramener vers lui. Alors je vais prier avec toi. Seigneur, merci pour ta parole. En ce début d'année, tu nous exhortes à ramener notre attention sur toi, à ramener et à garder notre attention sur toi, afin, Seigneur, d'être capable de gérer adéquatement le stress, de dire à notre âme, retourne à ton repos, parce que Dieu t'a fait du bien, tu l'as déjà expérimenté hier, avant-hier et depuis des années, tu sais que Dieu prend soin de toi, alors mon âme, calme-toi. La gestion du stress. Seigneur, être focusé sur toi, avoir mis l'emphase sur toi, garder notre attention sur toi, nous garde aussi dans la paix intérieure, ce repos qui ne vient que dans ta présence. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Je sens ta présence, je sais que tu es là. Et ça me rassure, ça m'apaise. Seigneur, peut-être que certains de nos amis ce matin ont été distraits. Au lieu de garder les yeux vers toi, ils sont tout le temps en train de braquer le volant. Par à droite, reviens au centre. Par à gauche, reviens au centre. Seigneur, que nous gardions les yeux fixés sur Christ. Seigneur, peut-être que certains d'entre nous ont raté la cible, sont en train de rater la cible, ont dévié de la route. Et ils se disent, c'est juste un millimètre. Mais plus ils avancent, ça se convertit en 2 millimètres, puis en 4, en 8, et ça augmente de façon exponentielle. Seigneur, je prie qu'ils ne poursuivent pas dans cette voie. Dans cette voie où, à un moment donné, on perd nos repères. Où les choses qui devraient nous rappeler ce qui est bon, ce qui est mal, deviennent floues en nous. À un tel point, Seigneur, qu'on peut en devenir perdu, n'ayant aucun moyen de retourner dans le bon chemin. Seigneur, si tu vois qu'on s'est éloigné, ramène-nous. Tu es le seul qui peut nous éclairer. Seigneur, ton bras n'est pas trop court pour nous secourir, même dans les dangers où nous-mêmes nous nous y sommes fourrés le nez. Seigneur, si ma propre folie m'a égaré, si la propre quête pour mes désirs personnels m'ont amené à me perdre, je me tourne vers toi, Seigneur. Tu restes encore aujourd'hui le chemin, la lumière et la vie. Dans ta grâce, éclaire-moi, Seigneur. Dans ta grâce, éclaire ma sœur. Dans ta grâce, éclaire mon frère. Et amène-nous à bon port. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de celui qui encore aujourd'hui éclaire notre sentier. La parole faite chair. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On se retrouve demain matin pour la suite. Demain, c'est une seule chose est nécessaire. Ça sera le verset 42, le début du verset 42, et on terminera par la suite. Donc demain matin, 8h30, encore une fois, nos bénédictions matinales. On vous rappelle que ce soir, le pasteur André poursuit son étude sur les fondements chrétiens. C'était un cours qui se donnait jusqu'à présent en présentiel. mais vu que les lieux de culte ont été dans l'obligation de fermer les portes en raison de la recrudescence des cas de COVID, donc on est passé plutôt en formule en ligne. Donc tous ceux qui voudraient suivre le cours, pas nécessaire d'avoir suivi les autres leçons. Chaque leçon est indépendante les unes des autres. Donc vous pouvez vous joindre au pasteur André ce soir, 19h, pour le cours Fondements chrétiens. Nous, on se retrouve demain matin, et demain, il y a deux rendez-vous. Demain matin, 8h30, et puis demain soir, avec l'étude biblique à 19h. Alors sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, comme on le disait tout à l'heure. Si vous sortez, couvrez-vous bien. Il ne fait pas chaud aujourd'hui au Québec. Alors que la grâce et la paix et la bénédiction de Dieu reposent sur chacun d'entre vous. Bonne journée à tous. Au revoir tout le monde.